Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Vous êtes la candidate LR à l'élection présidentielle. On est à 33 jours maintenant du premier tour. Votre situation, elle est difficile, douloureuse même, pourrait-on dire. Le dernier sondage ELAB qui a été publié cette nuit vous donne 10,5% des intentions de vote et vous passez cinquième derrière Emmanuel Macron, derrière Marine Le Pen, derrière Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Qu'est-ce qui ne va pas, Valérie Pécresse?
Je crois qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine écrase tout. Elle écrase cette campagne, elle écrase notamment le débat démocratique qui doit avoir lieu sur l'état de la France. Et aujourd'hui, il y a un réflexe légitimiste vis-à-vis du président de la République. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut absolument que cette campagne ne soit pas dérobée aux Français. Parce que derrière la crise en Ukraine, derrière la nécessité d'avoir une responsabilité vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis des sanctions qu'il faut prendre, vis-à-vis de l'attitude internationale de la France, eh bien, il y a aussi l'état du pays. Un état du pays qui est calamiteux, un bilan d'Emmanuel Macron qui n'est pas bon, qui n'est pas bon en matière d'autorité, qui n'est pas bon en matière économique.
Mais ça, Valérie Pécresse, dans un sens, c'est le contexte quand on regarde qu'en effet, les autres vous passent devant. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre campagne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre campagne?
Je crois que les thématiques qui sont les miennes, qui sont celles d'une nouvelle gestion de la France, c'est-à-dire redonner de la liberté aux entreprises, redonner de la dignité par le travail, remettre de l'ordre dans la rue, rebâtir les services publics, l'école, la santé, ce sont des sujets qui sont en train de passer au deuxième plan. Et aujourd'hui, les sujets de premier plan, ce ne sont que les sujets de la guerre. Et sur la guerre, je suis évidemment en responsabilité parce que, il y a plusieurs attitudes face à cette guerre. Il y a une attitude gaulliste qui consiste à défendre la liberté des peuples, à défendre la démocratie et à se battre pour. Et puis, il y a une autre attitude qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, qui consiste à être en soutien de Vladimir Poutine et à avoir une autre stratégie que celle d'Emmanuel Macron.
Donc, le clivage. Sorte, on ne distingue plus, c'est ça que vous dites, c'est pour ça que vous passeriez comme ça en arrière-plan. On ne vous distingue plus suffisamment d'Emmanuel Macron.
Un certain nombre des électeurs de la droite aujourd'hui veulent essentiellement que cette guerre soit stoppée et c'est l'heure déterminant aujourd'hui. Mais on a encore 4 semaines de campagne. Et la guerre, elle n'est pas en France, elle est en Ukraine, elle est à nos portes. Le sujet des 4 prochaines semaines, c'est qui pour gouverner la France dans les 5 prochaines années. Et le destin de la France est en train de se jouer. Est-ce que demain, nous serons vraiment une grande puissance? Est-ce qu'Emmanuel Macron a pris les bonnes décisions ces 5 dernières années? En matière énergétique, on le voit, notre dépendance est et c'est accru. On n'est plus une puissance souveraine. Emmanuel Macron a pris toutes les mauvaises décisions.
On est beaucoup moins dépendant que nos voisins, par exemple.
Il a pris toutes les mauvaises décisions. Il a fermé Fessenheim. Il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Et maintenant, il fait volte-face. En matière de sécurité, notre puissance extérieure, elle dépend aussi de notre force intérieure. En matière de sécurité, son bilan est mauvais. 32% de hausse des violences. En matière d'immigration, nous n'avons jamais réussi à réduire les flux migratoires.
On va regarder tout ça.
Donc, ce que je veux que les Français regardent dans les 4 prochaines semaines, c'est l'état de la France, l'état de l'école, l'état de la santé, et qu'ils changent de président, changent de gouvernement.
Valérie Pécresse, on va justement parler de l'Ukraine pour commencer. Est-ce qu'il faut couper le robinet du gaz et du pétrole russe?
Aujourd'hui, il faut durcir les sanctions. Parce que l'attitude de Vladimir Poutine est une attitude de guerre de plus en plus violente et de plus en plus
inhumaine. Mais est-ce que durcir les tensions, alors, les sanctions, ça veut dire carrément on coupe le robinet, on arrête de leur acheter?
Il faut qu'on diminue nos achats d'hydrocarbures russes, pétrole et gaz. Le seul problème, vous le savez, c'est qu'un embargo total, il faut pouvoir le tenir dans la durée. Si on le fait pendant quelques jours et qu'on s'aperçoit qu'après on est en pénurie et qu'on doit revenir dessus,
on n'est pas en mesure aujourd'hui de le faire.
Aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que l'Allemagne est très dépendante.
L'Allemagne qui dépend à 55%, nous à 17%.
C'est ça. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut que l'Europe s'engage à diminuer ses importations drastiquement et qu'on voit comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance le plus rapidement possible.
On ne pourrait pas se désolidariser de l'Allemagne, dire voilà, nous, on peut au moins montrer l'exemple, nous, Français, en disant on a les moyens de s'en passer, ces 17%, on ferme le robinet et puis les autres suivent.
Le sujet, c'est quelles sont les conséquences de ces décisions sur la population française. Et là, je crois qu'il y a un vrai effort du gouvernement à faire dans deux domaines. L'essence. Quand les prix de l'essence augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, l'État touche davantage de taxes. Il faut qu'une partie de ces taxes qui sont récupérées par l'État, l'État ne peut pas s'enrichir maintenant, pendant cette guerre. Il faut qu'une partie des taxes supplémentaires qui sont collectées par la hausse des prix de l'essence puisse être rendue aux Français. Et puis, il y a un deuxième sujet.
Donc ça passe par un chèque.
Il y a un deuxième sujet, il y a l'électricité. Il y a la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, de déconnecter par décret le prix de l'électricité en France du prix du marché européen qui, lui, est indexé sur le gaz. Le gouvernement devrait prendre ce décret, devrait déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz.
Pour qu'on puisse vendre l'électricité au prix
moins
où,
cher.
Où
on la produit, c'est-à-dire grâce à l'électricité nucléaire, moins cher.
Mais là encore, c'est une question de solidarité. C'est-à-dire qu'on a accepté d'indexer nos prix de l'énergie sur le prix de tous les autres pays européens. Là, vous dites, on se déconnecte.
Il y a une possibilité dans des circonstances exceptionnelles pour protéger le peuple français de se déconnecter et le gouvernement peut le faire.
Sur les taxes de l'essence, pardonnez-moi, j'ai pas bien compris, vous voulez un nouveau chèque carburant?
Non, je veux une transparence des nouvelles recettes que l'État va récupérer du fait de la hausse des carburants
et
qu'ensuite on regarde ce qu'on fait de cet argent et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire un plan de résilience pour les Français.
C'est ce que dit Bruno Le Maire. Il dit on va utiliser ces taxes pour engager la transformation et faire en sorte qu'on ait moins besoin d'essence à moyen terme. C'est trop long pour vous?
Eh bien écoutez, à moyen terme, c'est évident qu'il faut aussi qu'on se désengage de notre dépendance aux hydrocarbures. C'est ce que j'avais proposé avec une relance gaullienne du nucléaire. J'ai vu qu'Emmanuel Macron avait fait un virage à 180 degrés sur cette question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les bonnes propositions pour le pays.
Bruno Le Maire qui le dit à l'instant, le ministre de l'économie, il compare la crise énergétique d'aujourd'hui au choc pétrolier de 1973. Pour lui, c'est comparable. Vous faites le même constat?
Ça aura à peu près les mêmes impacts. Ça veut donc dire qu'il va falloir agir tous azimuts, à la fois sur la sobriété de la consommation. On peut aussi imaginer d'avoir des factures d'électricité moindres pour les Français qui accepteraient de consommer moins d'électricité lors des pics de consommation, par
Alors
exemple.
Alors ça, c'est automatique. C'est-à-dire que quand même, quand on baisse, c'est ce que nous dit la patronne d'Engie. Elle dit qu'elle invite tous les Français à baisser d'un degré son chauffage pour baisser d'environ 7% sa facture d'électricité.
Alors ça, c'est une question de responsabilité pour les Français. Mais vous savez, Apolline de Malherbe, il y a déjà des Français qui n'arrivent plus à se chauffer aujourd'hui.
C'est indécent de leur demander des efforts.
Tellement leur pouvoir d'achat aujourd'hui est bas. Donc nous allons tous, évidemment, collectivement faire des efforts. Mais il faut quand même vraiment penser à tous ces Français qui n'ont plus les moyens de payer leurs factures, ni d'essence, ni d'énergie. Et pour eux, il faut faire un geste supplémentaire.
Pardon d'insister, mais est-ce que vous dites aujourd'hui, les Français devront faire un effort?
Face à ce choc, je dis que collectivement, nous allons tous devoir nous adapter. Nous adapter à ce choc pour pouvoir être plus résilients. Mais s'adapter, ça veut dire aussi être protégé par la puissance publique.
Sur la question du pouvoir d'achat, on a l'impression que désormais, tout le monde parle de supprimer la redevance. C'est ce que propose Éric Zemmour, qui pour le coup carrément veut supprimer et privatiser l'audiovisuel public. Mais c'est aussi ce qu'annonce une des premières annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, vous voulez supprimer la redevance?
Alors il y a plusieurs mois, j'avais déjà mis sur la table le sujet de la suppression de la redevance. C'était lors d'un débat sur France 2. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, il n'y a plus de taxe d'habitation. Et la redevance était perçue avec la taxe d'habitation. Donc c'est très compliqué d'aller collecter la redevance. Par ailleurs, il y a énormément de nouveaux moyens de regarder la télévision qui ne sont pas des écrans télévisés. Donc cette redevance, c'est une taxe qui a fait son temps, qui est obsolète dans son mode de perception et dans son assise. Mais le problème, c'est est-ce que nous voulons garder un service public? Est-ce que nous voulons garder une création audiovisuelle française? Est-ce que nous voulons continuer à être souverains? Et donc il va falloir la financer, il va falloir sécuriser le budget de la création audiovisuelle en France avec, je crois, une loi pluriannuelle. Le vrai problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il annonce toujours des nouvelles dépenses, toujours des nouveaux chèques, toujours de la nouvelle dette, toujours des nouveaux déficits. Je suis la seule candidate aujourd'hui dans cette campagne à oser dire qu'il va falloir faire des réformes, qu'il va falloir dépenser
qu'il
va falloir réformer l'État, qu'il va falloir supprimer des postes de fonctionnaires dans l'administration administrante pour remettre des postes dans les priorités.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audiovisuel, il coûte 3,7 milliards par an. La redevance qui était donc de 138 euros en moyenne par foyer, ça rapportait 3,2 milliards. Si on supprime la redevance, pour autant, vous ne supprimerez pas les 3,7 milliards d'euros que coûte
non, mais ce que je suis,
donc il faudra bien les trouver ailleurs.
Oui, mais dans mon projet, il y a 75 milliards d'euros d'économies. Il y a toutes les réformes que la droite avait proposé de faire et qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire. Il y a la réforme des retraites,
bien évidemment. Vous ne réduirez pas le budget de l'audiovisuel.
Il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme de l'État, il y a la décentralisation, il y a la réforme du RSA. Toutes ces réformes dont personne ne parle parce qu'elles sont difficiles.
Mais vous dites aussi que vous réduirez des
dépenses. Moi, j'ai un programme de courage et je suis la seule aujourd'hui à proposer des choses courageuses dans cette campagne.
Je vous repose la question, est-ce que vous réduirez le budget de l'audiovisuel ?
Je sanctuariserai un budget pour l'audiovisuel public
à hauteur de 3,7 milliards
garanti pluriannuellement, mais l'audiovisuel public ne sera pas exempt de toute cette revue générale des politiques publiques que je veux faire, c'est-à-dire je veux mieux dépenser. Il y a des économies à faire dans l'audiovisuel public sur l'administration administrante, comme il y en a à faire dans toute la sphère publique. Je le revendique, la performance publique aujourd'hui est aujourd'hui pas suffisante. Et c'est pour ça que nous sommes champions du monde des impôts, Madame de Malherbe, champions du monde des impôts et pas champions du monde des services publics. C'est pour ça que notre école va mal, notre santé va mal, notre justice va mal, parce que l'argent n'est pas mis au bon endroit.
Santé et dépendance, grève dans les EHPAD hier, là encore c'est une question aussi de services publics. Et au fond, ce que nous disent les gens qui travaillent dans les EHPAD et notamment chez Orpea, c'est que en fait rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le scandale, que les personnes âgées sont toujours aussi rationnées, qu'il n'y a pas eu plus d'embauches. Est-ce qu'il faut aller au-delà juste du fait de dénoncer le scandale ? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à privatiser ces entreprises ou alors au minimum les sortir de la bourse ?
Nationaliser, vous voulez
nationaliser,
dire, parce qu'elles sont privatisées.
Nationaliser et les sortir de la bourse.
Aujourd'hui, le sujet, c'est faire un vrai cahier des charges pour le fonctionnement des EHPAD. Un vrai cahier des charges avec des indicateurs de qualité d'accueil des résidents. Et avec Philippe Juvin, nous avons travaillé à ce cahier des charges. Et ce cahier des charges, il devra être rendu public.
Il a été rendu public, il a commencé à être rendu public hier par le ministre de la Santé.
Bah, il a commencé, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Il faut qu'il soit rendu public, non pas par le ministre de la Santé, mais par les EHPAD eux-mêmes. C'est-à-dire que les EHPAD publient...
Et vous leur ferez confiance ?
Et qu'il y ait des contrôles.
Leur ferait confiance.
Il faut qu'il y ait.
Est-ce qu'on peut leur faire confiance?
Il faut qu'il y ait des contrôles. Il faut qu'il y ait des contrôles de ces indicateurs. Et quel est le meilleur contrôle? Vous savez qu'il y a une loi Kouchner qui met les malades dans la gestion des hôpitaux. Il faut une autre loi pour mettre les résidents et leurs familles dans la gestion de ces EHPAD, de façon à ce qu'ils aient accès à toutes ces informations et qu'on contrôle et qu'on sanctionne, bien évidemment. Parce que ceux qui ont fait passer leur profit avant la dignité humaine des résidents, eh bien, ils doivent être sanctionnés de manière exemplaire.
J'aimerais vous poser une question sur ce qui se passe en Corse. Des affrontements depuis ce week-end, on en parle à peine évidemment avec le reste de l'actualité, mais enfin ces affrontements sont vifs entre la population et les forces de l'ordre, depuis donc la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna en prison. Et puis hier, annonce de Jean Castex qui dit que finalement il ne sera plus considéré comme un prisonnier qui demande une particulière signalisation. Il pourra donc revenir sur l'île, à un moment où de toute façon il est entre la vie et la mort et où il est dans un état de coma profond. Est-ce que c'est pas presque une provocation vis-à-vis des Corses, ça ?
Moi, j'étais en Corse il y a quelques semaines et j'ai dit qu'il fallait réunir la commission qui devait se prononcer sur le caractère spécialement protégé des auteurs de l'assassinat du préfet Erignac.
En état de quasiment cérébral, on lui dit « bah oui, vous pouvez revenir en Corse ».
Bah, écoutez, c'est trop tard. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut répondre aux Corses pour les apaiser aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il faut que l'ordre revienne en Corse. Les émeutes ne feront pas revenir Ivan Colonna. Voilà.
Emmanuel Macron, candidat, donc, vous n'avez pas eu l'occasion de réagir à ce qu'il a dit, qu'il ne débattrait pas, ni avec vous, ni avec les autres. Il ne débattra pas avec les autres candidats. Il dit que c'est en raison, évidemment, à la fois du contexte, qu'il ne peut pas faire la campagne telle qu'il l'aurait imaginé, mais aussi parce que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait, donc pas de raison qu'il le fasse non plus. Comment vous réagissez à ça ?
Je croyais qu'il défendait un nouveau monde, une autre façon de faire de la politique. Et s'il défendait vraiment une autre façon de faire de la politique, il la ferait pas comme ses prédécesseurs. Il accepterait, compte tenu justement de ce contexte, qui fait qu'on n'a pas débattu. On n'a pas débattu de son bilan pour l'école. On n'a pas débattu de son bilan en matière de santé. On n'a pas débattu de cette dette abyssal qu'il va nous laisser. On n'a pas débattu de qui va payer l'addition du quinquennat Macron quand il sera terminé. On n'a pas débattu de l'avenir.
Vous auriez aimé pouvoir débattre avec lui.
Mais bien évidemment, on souhaitait tous débattre et avoir la possibilité d'argumenter argument contre argument. Parce que vous voyez aujourd'hui, bah, il y a une forme effectivement d'esquive systématique avec un président qui n'annonce que des bonnes nouvelles et qui ne nous dit pas comment tout ça va être financé. Vous savez, il y a 10 ans, François Fillon avait dit que l'État était en faillite. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous avons 1000 milliards de dettes supplémentaires. Et tous les jours, on a un président de la République qui nous annonce une dépense de plus. Moi, je suis la seule à avoir le courage de dire qu'il va falloir qu'on dépense moins, qu'on travaille plus, qu'on fasse un certain nombre de réformes courageuses pour remettre le pays sur pied. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que notre puissance extérieure dépend de notre force intérieure. Et je pense que si la France allait mieux à l'intérieur, si on était exportateur, si on était un grand pays industriel, on serait plus respecté dans le monde. Vous voyez, moi, je suis malheureuse quand je vois que finalement, c'est le chancelier allemand qu'on respecte
vous voudriez
plus
encore le
que le président,
vous
français
voudriez
dans les relations internationales.
Emmanuel Macron de débattre avec vous?
Oh ben, je crois qu'il a pris sa décision, mais je crois aussi que les Français doivent savoir qu'un autre projet est possible et qu'ils ne doivent pas avoir peur parce qu'il y a la guerre
Valérie
en Ukraine
Pérez,
de changer de capitaine,
aussi...
parce que c'est les 5 prochaines années qui se décident aujourd'hui et que ces 5 prochaines années ne peuvent pas ressembler à l'immobilisme des 5 années précédentes. Le pays est fracturé comme jamais. Il faut le protéger, il faut le libérer.
Il y a deux questions dans ce que vous dites. Vous dites il faut que les Français aient le courage de changer de capitaine. Au fond, ce qu'on entend, c'est effectivement l'adage qui dit au milieu de la tempête, on change pas de capitaine.
Mais la guerre n'est pas en France, elle est en Ukraine.
Enfin, on voit bien qu'il y a des conséquences et
bien sûr.
Vous redoutez pas quand même qu'il puisse y avoir un engrenage et qu'on se retrouve nous-mêmes pris dans cet engrenage?
Eh ben, il ne faut pas une élection présidentielle par reconduction tacite. Il faut une élection présidentielle avec un débat démocratique.
Et puis l'autre question,
qui permette de montrer toutes les défaillances du
l'autre
précédent
question
mandat.
Que l'on entend...
Parce qu'il
n'y
a aucune raison que dans le prochain mandat, Emmanuel Macron fasse le contraire
l'autre question
de ce qu'il a fait pendant 5 ans.
Qu'on entend dans ce que vous dites, c'est aussi la question de la distinction entre vous et lui. Quand on voit qu'Éric Woerth est parti, quand on voit que Jean-Pierre Raffarin est parti, quand on voit que Renaud Muselier, le patron de la région Sud, qui étaient tous de votre bord, sont partis, vous ont quitté, ils sont partis chez Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, peut-être j'aurais dû y aller aussi?
Mais moi, ce que je veux, c'est remettre le pays en ordre. Moi, je ne me satisfais pas d'un pays où il y a de la montée
que,
de la violence.
J'imagine que Jean-Pierre Raffarin, il dirait la même chose. S'il était face à moi, il dirait « je veux que le pays soit en ordre, je veux que le pays soit... »
Eh bien,
il dirait les mêmes arguments que vous.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont aujourd'hui avec Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas pris conscience que de la gravité du problème de l'immigration, de la gravité des problèmes de sécurité, de l'état de notre justice, de l'état de notre école qui est devenue la plus inégalitaire de France, de l'état de notre santé et surtout qu'ils n'ont pas pris conscience que la dette ne pouvait pas monter jusqu'au ciel et qu'à un moment donné, il allait falloir y avoir en France quelqu'un qui remette de l'ordre dans ce pays.
Et Nicolas Sarkozy ?
Nicolas Sarkozy, il est libre de ses choix. Moi, aujourd'hui, je crois que je défends la politique, les convictions qui sont les siennes.
Il ne vous soutiendra plus ? En tout cas, là, vous n'en attendez plus.
C'est à lui de dire, mais moi, je trace ma route. Je trace ma route parce que je sais qu'il faut un projet clairement de droite aujourd'hui pour ce pays. Et je sais aussi qu'Emmanuel Macron ne mettra pas en œuvre cette politique.
Vous êtes la plus riche des 12 candidats, puisque les déclarations de patrimoine sont tombées, avec votre mari, votre foyer, environ 10 millions d'euros. Est-ce que c'est une fierté pour vous ou est-ce que c'est un boulet d'avoir ces 10 millions d'euros?
Écoutez, vous savez, je suis mariée sous la communauté de biens depuis 27 ans avec mon mari qui est un industriel et c'est son patrimoine et moi je l'aime, c'est mon mari, mais c'est moi la candidate et moi je suis la candidate aujourd'hui de la France qui travaille. Le cœur de mon projet, c'est d'augmenter de 10% les salaires nets. Le cœur de mon projet, c'est de permettre à tous les Français qui ont des RTT de pouvoir les transformer en salaire. C'est de défiscaliser les heures supplémentaires. Je suis la candidate de la feuille de paye. Je suis la candidate du pouvoir d'achat parce que je veux rendre leur dignité aux Français. Je suis aussi celle qui fera la réforme des retraites parce que je ne veux plus que les retraités n'aient plus leur retraite indexée sur l'inflation. Et je veux qu'il n'y ait plus un retraité qui parte sans une retraite au moins égale au SMIC. J'ai ma vie, mais je veux être la candidate de cette France qui travaille et de cette France qui cherche sa dignité.
Vous tenez le coup ?
Absolument.
Ça va, il n'y a pas de moment où vous vous dites c'est dur, ou c'est plus dur que ce que j'imaginais.
Bah écoutez, ce qui est effectivement dur, c'est de voir la trahison de certains que j'ai soutenus, comme Éric Woerth, que j'avais soutenu entre les deux tours de l'élection en 2017, alors qu'il était tout seul et qu'il risquait de perdre sa circonscription. Ça, c'est dur, humainement dur. Mais ce que je crois, c'est que mes convictions me portent. J'ai la conviction qu'il faut relever la France et qu'il ne 5 ans d'Emmanuel Macron, c'est trop, et 10 ans, ce sera trop tard.
Valérie Pécresse, candidate donc LR à l'élection présidentielle, merci d'avoir répondu à mes questions. J-32 avant le premier tour.